qu'en ce jour de l'Assomption, on puisse faire mémoire de Marie comme temple du Seigneur et lire la préface. Pourquoi lire la préface? Alors, je ne sais pas si vous êtes vous-même attardé sur les préfaces. Je ne pense pas, parce qu'il faut avoir le missel, etc. Mais la préface, comme son nom l'indique, c'est ce qui colorise un peu toute la fête. Si vous voulez comprendre une fête liturgique, eh bien, vous lisez la préface. Et la préface vous donne de comprendre qu'est-ce que veut dire la fête, quel est le sens de la fête. Et donc, Marie comme temple du Seigneur, et on verra, temple de la gloire du Seigneur, de la gloire de Dieu, hein, parce que le temple de Jérusalem, c'était le temple de la gloire de Dieu, et aujourd'hui, Marie qui est dans la gloire de Dieu. Donc, évidemment, il y a un lien entre les deux. Et voilà, tout simplement lire le petit papier que vous avez. Pour te préparer une demeure dans nos cœurs, tu nous donnes ton Esprit Saint qui nous purifie par sa lumière et nous sanctifie par sa présence. Voilà, d'abord, c'est cette première affirmation que Marie est temple de la gloire de Dieu parce qu'elle est demeure de la gloire de Dieu. Elle est demeure par sa maternité divine. Ce sera dit un petit peu plus tard. Mais par le mystère de l'incarnation de ton Fils et par la foi obéissante de la Vierge Marie, tu as fait d'elle, d'une manière unique, le temple de ta gloire. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout dans la Vierge Marie provient ou est orienté à la maternité divine. C'est-à-dire, elle est mère de Dieu, provient de la maternité divine, comme par exemple la fête qu'on fête aujourd'hui, l'Assomption de la Vierge Marie, eh bien c'est parce qu'elle est vraiment mère de Dieu qu'elle est aussi avec son corps et son âme en présence de Dieu, parce que sa maternité divine appelle cette glorification, donc provient, mais est destinée à, par exemple, l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est qu'elle s'est vraiment en vue, c'est-à-dire Marie qui était conçue, qu'on confond parfois avec la virginité mariale, mais Marie qui était conçue sans le péché originel, c'est en vue de la maternité divine. Donc c'est très intéressant de voir que dans le mystère de la Vierge Marie, ce qui est au centre, c'est la fécondité. La fécondité va permettre, et donc qui dit au centre du mystère de la Vierge Marie, dit au centre du mystère de notre propre vie. Parce que Marie est personne humaine, vous le savez, et donc en Marie, il y a la réalisation des desseins de Dieu, et en Marie, il y a la réalisation de notre propre vocation. Donc la fécondité est au cœur du mystère de Marie. Elle est appelée à être mère de Dieu, et elle est appelée à vivre cette incarnation du Fils de Dieu. Ça veut dire aussi que pour nous, il y a quelque chose de très fort, c'est que être demeure de Dieu, ça a à voir aussi avec notre fécondité. Être demeure de Dieu, être temple de Dieu, et nous le sommes par le baptême, c'est ce que dit l'apôtre saint Paul, et nous avons eu de beaux baptêmes pendant la célébration eucharistique. Être temple de Dieu, c'est ce que dit saint Paul, voilà, c'est la vocation du chrétien. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit ? Le chrétien ne se pense pas par rapport à un lieu particulier, comme par exemple à Jérusalem, le temple de Jérusalem, parce que vous savez, depuis l'an 70, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Mais du coup, les chrétiens... Alors, il y a deux chaises là-devant, si vous voulez vous mettre ici devant, venez. Les chrétiens se définissent chacun comme temple, ce qui est très différent. Je veux dire, le rapport au lieu a complètement changé avec le christianisme. Le rapport au lieu est très différent par rapport au judaïsme et par rapport aussi à l'islam d'une autre manière. Mais c'est alors que le judaïsme est très centré sur les lieux et singulièrement le lieu du temple, qui est le lieu de la présence de Dieu, de l'Arche d'Alliance qui contiennent les tables de la loi. Et depuis l'an 70, après Jésus-Christ, il n'y a plus de temple. Et donc, la question, c'est que, est-ce qu'il n'y a plus de... Cherchez quelque chose, oui? Non, non, vous dites. Il faut des papiers, peut-être, non? Comment? Ah oui, allumez, allumez, allumez la bougie, si vous voulez. Allumez. Moi, j'ai pas de briquet, il n'y a pas de fumée, je fume pas. Alors, donc, du coup, alors voilà, Gilles qui fume. Non, mais il est sacristain, c'est pas pareil. Alors, peut-être, faites passer là. Il y a deux personnes qui sont arrivées en retard. Allez, on les fait passer. Et il y en a une qui est derrière, complètement au fond. On lui fait passer aussi. Et puis après, j'en ai plus de petites feuilles. C'est bon, tout le monde a une feuille là. Faites passer là-bas. Il y a des feuilles, voilà. Alors, du coup, c'est intéressant de voir que le fait d'être demeure de Dieu, pour nous chrétiens, c'est tout à fait différent d'être demeure de Dieu dans le judaïsme. Demeure de Dieu dans le judaïsme, c'est attaché à un lieu physique, géographique. Alors que pour nous, demeure de Dieu, c'est attaché à un sacrement. Et c'est vrai, ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est l'un est la figure, l'autre l'accomplissement. C'est-à-dire, le temple de Jérusalem est la figure, au fond, de ce que nous sommes appelés à être chacun, présence de Dieu, tabernacle de Dieu, temple du Saint-Esprit. Donc, c'est intéressant de voir qu'en Marie, il y a l'accomplissement de ça de façon suréminente comme personne humaine, parce qu'elle était Immaculée Conception, elle a été sans le péché originel, il n'y a pas la trace de la désobéissance comme il peut y avoir dans chacun de nous. Et donc, elle est vraiment... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fécondité de nos vies est liée au fait d'être demeure de Dieu, d'être présence de Dieu. Plus on est en présence du Seigneur, plus on est sa demeure. Et plus on est sa demeure, plus on porte des fruits, plus on est fécond. Vous voyez, je trouve ça beau de méditer sous cet angle-là. Ça veut dire aussi le rappel d'une intériorité. La demeure de Dieu, le temple de Dieu, la présence de Dieu, c'est vraiment se recentrer sur notre vie spirituelle. Et si vous êtes là, ou pour la journée, ou pour la retraite, là, pour certains d'entre vous, c'est important de se rappeler, vous faites cette démarche-là pour vous recentrer sur cette présence de Dieu dans votre vie. C'est ce que disait notre père Lamy, notre fondateur, il disait, laissez-vous aller au silence, pour être à l'écoute de l'hôte divin qui habite en vous. L'hôte divin qui habite en vous. Le chrétien a cette perception, et c'est le seul, et c'est la seule religion qui a cette perception, que par la grâce du baptême, il devient l'hôte de Dieu, lui-même. C'est considérable. C'est-à-dire, Dieu n'est pas simplement extérieur, ou Dieu ne va pas simplement être dans un temple extérieur, etc. Et du coup, forcément, pour nos amis juifs, c'est compliqué. J'imagine, depuis 2000 ans, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de lieu de la prière, et puis il n'y a plus de lieu où offrir des sacrifices. Parce que le temple, c'était vraiment ça. C'est le lieu où offrir des sacrifices. Et alors, on voit un certain nombre de juifs qu'on appelle messianiques qui disent, mais au fond, est-ce que on n'a pas... On n'est pas passé à une autre dimension. Est-ce que le vrai sacrifice n'est pas celui du Christ, dont les sacrifices de l'Ancienne Alliance étaient comme les préparations? Mais au fond, on n'a plus besoin de sacrifice parce que le Christ lui-même s'est offert. Et il accomplit tous les sacrifices. C'est-à-dire qu'être temple, c'est aussi, et c'est lié à notre fécondité, c'est accueillir la croix. C'est à le cueillir la croix dans notre vie de façon voilà de façon particulière et d'accueillir la croix telle qu'elle se manifeste, que ce soit dans nos santé, que ce soit dans nos relations familiales, relations professionnelles, que ce soit dans la vie spirituelle et parfois dans cette vie spirituelle où on sent qu'il y a une sorte de désert spirituel intérieur. Accueillir la croix du Seigneur est en lien avec la fécondité de notre vie, est en lien avec la présence de Dieu dans notre vie. On est temple parce qu'on accueille aussi la croix du Seigneur. Comme le temple de Jérusalem était le lieu des sacrifices. Nous, nous sommes temple parce que en nous-mêmes, nous sommes marqués du signe de la croix. Et la Vierge Marie, évidemment, elle a vraiment cette mission particulière. Elle est celle qui est au Golgotha. Elle est temple non seulement parce qu'elle est mère de Dieu, elle porte en elle-même la présence de Dieu, mais elle est temple parce qu'elle accueille au Golgotha le sacrifice du Fils. Elle offre le sacrifice. Vous avez une... Non, mettez-vous plutôt devant. Elle accueille le sacrifice du Christ. Voilà, je trouve ça intéressant de rappeler ça, parce que ça permet aussi de nous-mêmes de resituer la manière dont on est présence de Dieu, comme chrétien. J'accomplis dans ma chair ce qui manque à la croix du Christ, disait saint Paul. Et qu'est-ce qui manque à la croix du Christ? Il manque à la passion du Christ, il manque rien, parce que la passion, elle est complète, le salut, il est complet. Mais qu'est-ce qui manque si ce n'est de révéler au monde l'amour? Et à ce monde-ci, nous révélons l'amour en accueillant dans notre vie la passion du Christ. Et en accueillant la passion du Christ, nous sommes temple. Et ce n'est pas pour rien que, au moment de la passion, le rideau du temple lui-même s'est ouvert. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était fermé, c'est déchiré, le rideau du temple, c'est-à-dire ce qui abrite le Saint des Saints, c'est déchiré, c'est pour laisser voir une autre manière d'être temple. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est, je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous aviez médité, mais voilà, pour te préparer une demeure dans nos cœurs, dit la préface, tu nous donnes ton Saint-Esprit qui nous purifie et nous sanctifie. Et on voit bien que la présence du Saint-Esprit, elle est capitale, là. Elle n'est pas simplement une petite aide, on va demander... Parce que ça nous dépasse tellement, le fait d'être présence de Dieu. Ça nous dépasse tellement. On se sent tellement pauvre, tellement indigne. Et pourtant, le Seigneur... par le baptême, nous appelle à devenir temple. Temple de sa présence. Par la grâce. Et donc, on voit bien qu'il faut l'aide du Saint-Esprit qui prépare, qui travaille. Et on pourrait prier en ce jour le Veni Creator Spiritus. Voilà, de demander vraiment au Saint-Esprit de venir dans notre cœur, ce Saint-Esprit qui a pris Marie sous son ombre et qui a fait d'elle la mère du Sauveur, ben, ce Saint-Esprit veut aussi travailler notre cœur. Donc, c'est important de... Et ce soit beau dans les mystères de notre foi, il y a une unité, tout est en lien. L'Assomption, c'est aussi le mystère de la Pentecôte. C'est en lien. C'est une Pentecôte. Le Marie... couverte par le Saint-Esprit et entrée dans la gloire de Dieu. Donc, ça, pour nous, ça nous dit où est-ce qu'on en est de notre lien avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui, comme dit le texte, purifie et sanctifie. Purifie, bon, on comprend bien le terme, c'est purifier, c'est-à-dire, voilà, fait que ce qui n'est pas conforme à la présence de Dieu en nous, au fait d'être tabernacle de Dieu, eh bien, soit enlevé, mais sanctifie, c'est-à-dire sanctifier, c'est être mis à part, être consacré. Le Saint-Esprit consacre. Donc, par le baptême, nous sommes consacrés. Nous sommes mis à part. Nous sommes mis à part parce que nous prenons conscience qu'en nous-mêmes, nous portons plus que nous-mêmes. C'est ça la définition du chrétien. Le chrétien, c'est celui qui pense, qui non seulement pense, mais expérimente qu'en lui-même, il porte plus que lui-même. Dans la fragilité de nos humanités, nous portons la présence. Comme dira saint Paul, dans des vases d'argile, nous portons un trésor. Et ça, c'est possible par le mystère de l'incarnation. Aucune religion le dira, en tout cas pas de cette manière. Pas avec cette conviction que l'humanité a été élevée de façon suréminente par l'incarnation. Et le fait que Marie soit avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu, c'est toute notre humanité qui est appelée à être avec l'âme et le corps. Et le corps, là, c'est important. C'est ce que nous confessons chaque dimanche. Je crois en la résurrection de la chair. C'est très différent croire en la résurrection de la chair que croire en la réincarnation. Mais ça n'a juste rien à voir. C'est très différent. Je veux dire, parce que beaucoup disent oui, mais c'est la réincarnation. Non. La réincarnation, non. C'est, chaque tradition religieuse est respectable, etc. Mais ça vient de l'Asie, etc. Mais la notion, vous voyez, de personne dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme n'est pas du tout la même que la notion de personne dans le christianisme. Nous croyons que nous verrons Dieu face à face avec notre corps, à la fin des temps. Je crois en la résurrection de la chair. Et Marie est avec son corps et son âme avec Dieu, comme Jésus est encore avec son corps et son âme auprès de Dieu. Alors on parle, vous voyez, il y a deux termes pour désigner ça. Il y a ascension, vous connaissez bien, et assomption. Pourquoi on a choisi deux termes d'après vous ? C'est pas pareil. Marie est créature. Assomption, ça veut dire assumer. Elle était assumée. Ascension, c'est-à-dire qu'en lui-même, le Christ a le pouvoir de glorification. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Marie est assomptée, assumée. Elle est assumée parce que Dieu lui-même a assumé toute notre nature humaine. Et ça, c'est le mystère de l'incarnation. C'est pour ça qu'on a deux mots, assomption et ascension. Mais c'est la différence entre Dieu et la créature. Mais je trouve ça beau de dire que tout dans notre humanité va être assumé par Dieu, par le Saint-Esprit, par la gloire de Dieu. Et nous verrons, nous le croyons, face à face, le Seigneur, avec toute notre personne humaine. D'abord avec notre corps, notre âme, notre intelligence, notre volonté. Voilà, on contemplera Dieu, mais aussi avec notre corps. C'est très différent de d'autres philosophies qui pensent qu'on se dissout dans le grand tout. Non, on ne croit pas ça, non. Nous croyons que nous subsistons après la mort. Ça n'a rien à voir. Nous subsistons après la mort. Parce que nous sommes temple. Vous voyez, c'est le fait d'être temple qui fait qu'on subsiste après la mort. C'est le fait de l'incarnation qui fait qu'on subsiste après la mort. On ne va pas simplement dans le monde du Shéol, comme on dit, le monde des morts, au fond, voilà, un monde un peu indéfini. Non, ça c'était la foi du peuple d'Israël. Voilà, c'est on va dans le monde des morts, etc. Mais là, non, on croit qu'on est appelé à un face-à-face dans notre personne, avec le Seigneur. Et donc, d'abord avec notre âme, qu'est-ce que ça veut dire notre âme ? C'est-à-dire notre manière d'aimer, notre manière de connaître. D'où l'importance d'aimer et de connaître qui nous prépare à la vision de Dieu. Et c'est pour ça que si dans cette terre, nous nous sommes préparés à l'intimité avec le Seigneur, bien il est fort probable que dans le face-à-face avec Dieu, nous soyons aussi disposés à l'accueillir. Il faut bien comprendre, il y a une continuité. Il y a une continuité. C'est pour ça que, voilà, on prépare, ben c'est des choses très que vous savez par cœur, on prépare ici-bas la demeure de l'au-delà. Et le grand moment de notre vie, ce sera le moment de notre mort. Mais qui n'est pas une fin, qui est un début. Et donc, de se préparer maintenant et à l'heure de notre mort, qu'est-ce qu'on demande? Ça, on demande ça à la Vierge Marie. Justement, pour se préparer. Parce qu'on prend conscience qu'il y a là un enjeu considérable. Notre vie retentit dans l'éternité. Notre vie d'ici-bas retentit dans l'au-delà. C'est ça que nous dit la Vierge Marie aussi, avec son Assomption. Et comme temple du Seigneur. Et la préface continue, et elle est très belle. Donc, mais par le mystère de l'incarnation de ton Fils, la foi obéissante de la Vierge Marie, tu as fait d'elle de manière unique le temple de ta gloire. La foi obéissante de la Vierge Marie. Quelle est la manière d'être temple? C'est d'abord une grâce qui nous est donnée par le Saint-Esprit. C'est cette grâce du baptême qui fait de nous les temples du Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose d'autre que rajoute le texte liturgique. Il rajoute en disant. Par la foi obéissante de la Vierge Marie. La fécondité de nos vies, la présence de Dieu de nos vies, le fait que la présence de Dieu en nous porte des fruits, c'est lié à la foi et à l'obéissance. La foi, c'est-à-dire, la foi, elle est dans l'intelligence, vous le savez, hein, la foi, c'est. L'adhésion de l'intelligence à un Dieu qui se révèle. Donc la foi et l'obéissance, c'est intéressant parce que le texte le lit et parce que c'est lié. La foi vient d'une obéissance à la parole. Et les manques de foi, c'est des manques d'obéissance, c'est des endurcissements du cœur. La foi vient de la parole, fides ex auditu, hein, dit Saint Paul. La foi vient de la prédication, d'où l'importance de prêcher. Parce que ça vient de ça, la foi. Parce que ça ouvre le cœur à l'adhésion à un Dieu qui se révèle. Et donc à une obéissance. Et Marie a vécu cette obéissance et elle a progressé dans l'obéissance. C'est intéressant de voir ça. Je crois que c'est Jean-Paul II dans son encyclique sur la Vierge Marie, Redemptoris Mater, qui parle de ça, de dire que Marie, tout ne lui a pas été donné comme ça, d'un seul coup. Elle a progressivement pris conscience, comme personne humaine, de l'obéissance qu'elle avait à faire à la volonté de Dieu. Et je vais dire, pour nous, c'est pareil. Il y a des moments. On ne comprend pas. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi on passe par telle épreuve? Pourquoi le Seigneur nous demande ceci? Pourquoi? Et une fois qu'on a fait acte d'obéissance, c'est-à-dire obaudire, c'est-à-dire d'écouter, c'est ça? Obéir, c'est écouter, c'est le même mot. Une fois qu'on a vraiment réouvert notre cœur à une écoute, qu'est-ce que tu veux me dire? Eh bien là, on comprend. Mais c'est tout le combat spirituel. Marie a certainement vécu un combat spirituel. Ton père et moi, nous te cherchions tout angoissés, où étais-tu? Voilà, c'est Jésus qui était au temple. Voilà, il y a eu certainement, évidemment, le grand combat de la croix. Mais combat spirituel ne veut pas dire péché. Jésus lui-même a subi la tentation. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des tentations qu'on est loin de Dieu. C'est-à-dire, plus on est dans un combat intérieur, quelque part, plus c'est le signe d'une proximité avec Dieu. Et plus on est temple, plus on a de combats. Parce que plus il y a des forces centrifuges qui nous emmènent loin de Dieu, loin de cette vie intérieure. Et on voit bien qu'il y a de notre monde a en haine l'intériorité. C'est l'appel comme ça au bruit, l'appel à la consommation, l'appel voilà. Il y a notre monde a en haine l'intériorité. Et donc l'intériorité, c'est aussi un combat intérieur. C'est un combat spirituel face à ces forces centrifuges qui nous emmènent loin de la présence, loin du cœur profond où habite le Seigneur. Parce que nous croyons à ce qu'on appelle l'inhabitation de la Trinité en nous. Et nous sommes les seuls, les chrétiens, à croire en ça. Nous sommes seuls. On comprend que, quelque part, les droits de l'homme soient très liés à la vision chrétienne. Parce que la personne humaine a acquis une telle dimension avec le christianisme absolument inégalé dans l'histoire de l'humanité. Il n'est ni plus ni moins que temple, présence de Dieu. Donc ça veut dire que, évidemment, le respect pour la personne humaine, etc., tout ce qui a été mis en place aussi progressivement, qui est tiré de ça, quoi. L'éducation, le soin, la santé, le soutien aux plus pauvres, aux démunis, etc. Voilà, l'Église a pris conscience très tôt de cette dimension de charité, parce que justement, cette prise de conscience que chaque fois que je m'approche d'une personne humaine, c'est vraiment de la présence de Dieu aussi que je m'approche. Elle est la demeure précieuse de ton esprit ornée de toutes les vertus, palais du roi qui brille de la splendeur de la vérité, cité sainte que réjouissent les flots de la grâce, l'arche de l'alliance nouvelle qui contient l'auteur de la nouvelle loi, Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ce deuxième paragraphe de la préface, voilà, qui parle de la Vierge Marie comme cette demeure, le palais du roi, la splendeur de la vérité, l'arche d'alliance, elle est l'arche d'alliance qui porte non seulement les tables de la loi, mais qui porte l'accomplissement des tables de la loi et l'origine qu'est le Christ lui-même. Mais cette loi-là, elle n'est plus inscrite, nous dira saint Paul, sur des tables. Elle est inscrite dans notre cœur. Avec la vie chrétienne, il y a une intériorisation de la loi du Seigneur. C'est-à-dire que il y a une proximité, une familiarité avec la loi du Seigneur, parce que cette loi-là du Seigneur a été inscrite dans le cœur de chacun. C'est ce qu'on appelle vivre selon sa conscience. Vivre selon sa conscience, c'est et singulièrement le chrétien qui prend conscience aussi que le Seigneur l'habite, ben vivre selon sa conscience, c'est faire le bien, éviter le mal, d'où l'importance de se former, d'éclairer sa conscience. Parce que l'étape de la loi avait pour but, au fond, de rappeler ce qui était ce qu'on appelle la loi naturelle, les 10 commandements, c'est ça, c'est faire le bien, éviter le mal, c'est la base de la base. Mais il a fallu que Dieu les rappelle. Donc ça veut dire que ce n'est pas si simple que ça, si évident que ça, si spontané que ça, que d'agir selon sa conscience. Et une conscience éclairée. Donc elle est l'arche d'alliance nouvelle, parce que justement il y a une nouveauté dans la manière de vivre le rapport à sa propre conscience, parce que cette nouveauté provient du fait que On est habité. Et toute la vie spirituelle consistera à prendre conscience du fait qu'on est habité et que l'autre aussi est habité. Je ne suis pas le seul à être habité par la présence de Dieu. Je suis aussi tabernacle comme l'autre l'est aussi. Alors, je trouve que c'est quelque chose pour nous qui qui nous renvoie au fond à la fête de ce jour. C'est intéressant de voir que cette fête, le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, les derniers dogmes dans l'Église catholique ont été au sujet de la Vierge Marie. Que ce soit l'Immaculée Conception en 1854, 1950, le dogme de l'Assomption, et un peu plus tard, en 1954, je crois, c'est le couronnement de Marie. Voilà, c'est... Mais c'est intéressant de voir à quel moment l'Assomption, qui était déjà dans la foi du peuple chrétien depuis longtemps, c'est pas quelque chose de nouveau, c'était déjà célébré dans le peuple chrétien, mais c'était reconnu, je veux dire, le peuple chrétien, quelque part, était en avance par rapport à la hiérarchie, par rapport à la doctrine. Et donc, c'est souvent comme ça, hein, l'Immaculée Conception, ça a d'abord été porté par le peuple chrétien, une certitude du peuple chrétien, et ensuite, ça a été remis dans les textes. Soit d'abord porté par une communauté. C'est la loi de l'incarnation, porté par un peuple. Et c'est intéressant le moment où ça s'est prononcé, le dogme de l'Assomption. C'est après la guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, qui a connu tellement de souffrances, tellement de déchéances de la personne humaine, eh bien l'Église propose l'Assomption de la Très Sainte Vierge. C'est-à-dire la personne humaine destinée à la gloire. Avec son âme et son corps. Alors que tant de corps ont été meurtris, tant d'âmes bafouées, eh bien l'Église dit non, ce n'est pas ça qui a le dernier mot, c'est la contemplation de Marie en son Assomption qui a le dernier mot. Parce que c'est la miséricorde de Dieu qui a le dernier mot. Moi, je trouve ça très beau et plein d'espérance. Alors qu'on est tellement dans une période tellement déboussolée, tellement voilà, de tant de haine, de tant de violence, de tant de drames, de tant de, comme toutes les guerres, mais peut-être plus encore celle-ci, de tant de voilà. Eh bien, il y a une lumière qui nous est proposée. Il y a une espérance qui nous est donnée. Dans l'Assomption de la Très Sainte Vierge, et qui provient du fait qu'elle est temple, qu'elle est habitée, qu'elle est le lieu de la croix. Mais le lieu de la croix, c'est le lieu de la présence, et c'est le lieu de la fécondité. Alors, je trouve que c'est beau de, quand nous-mêmes nous sommes confrontés à une forme d'absurde, c'est-à-dire, soit notre vie est absurde, soit notre vie est mystère, c'est soit l'un, soit l'autre. Il y a un choix à faire dans notre vie. Soit cette humanité est absolument absurde, et vous auriez mille occasions, mille exemples de donner l'absurdité de toute la vie humaine, soit cette humanité, notre humanité, elle est mystère. Et vous savez que mystère, ça vient du grec, muo qui veut dire caché. Il y a quelque chose de caché. Tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Dieu caché en chacun. Dieu caché en Marie. Alors il y a un choix à faire. La foi, c'est aussi un choix. Entre mystère et absurde, les deux sont possibles, et les deux, j'allais dire, peuvent être illustrés par de nombreux exemples. Mais pour nous, croyants, nous avons fait le choix du mystère. Nous avons fait le choix du mystère parce qu'on a découvert dans notre propre vie une présence. Et on sait bien que la vie chrétienne, c'est d'abord une rencontre. Ce n'est pas d'abord une loi extérieure, ce n'est pas d'abord un code moral, c'est d'abord une rencontre. Et parce qu'on a fait cette rencontre avec le Seigneur, parce qu'on a, dans la prière, dans la foi et l'obéissance de la foi, découvert cette présence du Seigneur, que l'on peut dire justement qu'on est appelé à la gloire, que l'on peut dire que notre vie ne se terminera pas dans la fosse. Alors que si on n'a pas ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Si on n'a pas ça, eh bien, notre vie, voilà, elle se termine au seuil, là, la mort, c'est la fin. C'est la fin de tout, on reste un peu, il y a des souvenirs de la personne défunte. Hier, j'ai célébré un enterrement d'une femme assez jeune, 63 ans, morte brutalement, etc. Donc, c'est un choc terrible pour la famille. Bon. Et du coup, voilà, on évoquait avec la famille, mais voilà, qu'est-ce qu'on a des souvenirs de cette personne, mais ces souvenirs, ils vont s'estomper, ils vont partir, ils vont... Qu'est-ce qui va demeurer, sinon la certitude que cette personne-là, d'une manière ou d'une autre, elle est avec le Seigneur. Donc la manière de vivre les derniers moments, maintenant et à l'heure de notre mort, la manière de vivre les derniers moments sera très liée à notre vie de foi. Et c'est là où on voit la grande désespoir de beaucoup de nos contemporains qui n'ont plus rien, qui n'ont plus de... sont dans une grande pauvreté, pas matérielle, mais pauvreté spirituelle. Et on peut le voir, peut-être certains d'entre vous accompagnent des funérailles en paroisse, etc. On voit, et c'est parfois aussi l'occasion de réveil, de dire, mais alors, qu'est-ce qui compte vraiment? Mais qu'est-ce qui compte vraiment? Justement, voilà, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Eh bien, Marie nous donne une lumière de ce qu'il y a après la mort. Mais c'est dans la foi, c'est pas dans le face-à-face, on le sait bien, ben voilà, ce sera dans l'au-delà. C'est dans la foi, mais la foi, c'est une certitude à défaut d'être une évidence. Ce n'est pas pareil, certitude et évidence. La foi n'a rien d'évident, mais elle donne une certitude. Voilà, donc on va demander au Seigneur, dans cette journée, de nous remettre justement, comme le conseillent beaucoup de saints, de nous remettre sur le chemin de la vie intérieure, de voir ce qui nous a pu nous dissiper de cette vie intérieure, de cette présence, de cette fécondité. La fécondité de nos vies, c'est la grande question de nos vies. Et une retraite ou un temps spirituel comme vous vivez aujourd'hui, ça a vraiment cette vocation-là de nous remettre sur les choses, de nous redire ce que nous savons, ce que je viens de vous le dire, vous le connaissez par cœur déjà. Mais ça nous fait du bien de réentendre des choses que nous savons. Parce que justement, on a la mémoire, cette capacité d'oublier. De refaire mémoire de ce que nous portons, de qui nous sommes. Et puis ça nous pousse aussi à l'évangélisation. Ça nous pousse à l'évangélisation parce que on dit, voilà, ce qu'on a découvert, cette présence de Dieu, on ne peut pas la garder pour nous, ce n'est pas possible. On ne peut pas garder ça pour nous. Et du coup, l'évangélisation, c'est partager une présence. Et c'est là où c'est une grâce. Et c'est là où c'est le Saint-Esprit, comme on l'a dit au début de cette méditation, qui, qui nous permet de découvrir cette présence en nous. De faire l'expérience par la prière de l'évangélisation. Plus que vous ne le croyez, beaucoup de nos contemporains sont peut-être disposés à une certaine forme de prière, de spiritualité, de, un peu confuse, mais n'hésitons pas, par exemple, un petit détail pratique, quand nous savons quelqu'un passe par une épreuve, etc., bon, on dit souvent ben, « je pense bien à toi ». Mais la pensée n'a jamais sauvé personne. Pourquoi on ne dit pas « je prie bien pour toi »?« Je prie bien pour toi ». Est-ce que tu veux que je prie pour toi ? Alors là, on rentre tout à fait dans une autre dimension. Et par la prière, il y a vraiment cet appel à rappeler la présence de Dieu. De prier avec, non seulement de prier pour, mais de prier avec. Est-ce que tu veux que je prie avec toi ? Mais je ne sais pas prier. Ben oui, mais on va se mettre déjà dans le silence, dans la présence de Dieu. Recentre-toi sur ce que tu as reçu, sur cette grâce du baptême qui t'habite. Prends conscience que tu es temple.
Si la personne n'est pas baptisée, elle est quand même enfant de Dieu.
Alors, si la personne n'est pas baptisée, elle est quand même à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, il y a une conscience qui est ce que dit le concile. Cette conscience, c'est le lieu de la présence de Dieu dans cette personne. Alors, elle n'est pas stricto sensu, il n'y a pas l'inhabitation de la Trinité, comme dans le cadre du baptême, mais il y a une présence de Dieu très claire, parce que l'image est la ressemblance. Et vous savez la différence entre image et ressemblance, hein, que l'image, elle est inaltérable, alors que la ressemblance, elle se travaille. Mais l'image de Dieu, elle est inaltérable. Il y a un sceau posé sur notre cœur que rien ne peut altérer, endommager, auquel le démon n'a pas accès. Et c'est tellement rassurant de dire ça, de image et ressemblance.
Donc, en enfer, il
n'y
a pas de ressemblance.
Ah non. En enfer, il n'y a pas de ressemblance. Et c'est ça la douleur. C'est qu'il y a l'image, mais il n'y a pas la ressemblance. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. En enfer, il n'y a pas de ressemblance. Justement, c'est. Mais l'image, elle reste.
C'est parce qu'on a dit non.
Eh oui, ben, on a dit non, mais d'accord, mais c'est là la souffrance de notre vie. C'est-à-dire qu'on est fait pour, tout en notre être dit qu'on est fait pour, et en même temps, on a fait l'inverse. Ah, on est pas obligé. On est même plutôt encouragé à lui dire oui, si vous voulez. Mais bon, mais qu'on se retrouvera devant Jésus, je ne sais pas trop ce qu'on fera. Mais en fait, ce qu'on fera, si, c'est bon. Bah, c'est que on agit face à face avec le Christ, on agira comme on agit maintenant. Si toute ma vie j'ai nié Dieu, sachant qu'il existe, j'ai eu en haine le Christ, sachant qu'il existe et qu'il est Dieu, parce que c'est ça le démon. Le démon n'a pas de problème de foi. Les premiers à confesser la divinité du Christ, c'étaient les démons dans l'Évangile.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Jésus s'est mis de maître de l'univers.
Oui, oui, mais il est maître de l'univers, mais en même temps, cette fameuse liberté qui nous est laissée de le nier. Hein, c'est nier, connaissance, c'est nier. Maintenant, bon. Il en faut quand même. Je veux dire, bon, c'est pour ça que l'Église n'a jamais damné des personnes, elle a canonisé des personnes, mais en dehors des anges et en dehors du démon et de ses anges, elle ne dit que, elle ne dit que, elle ne donne pas de nom de personne qui habite l'enfer. Mais justement, parce qu'il y a, c'est intéressant de voir que Marie, c'est la nouvelle Lucifer, celle qui porte la lumière. Lux, Lucifer, celui qui porte la lumière. Alors que c'était un archange, le plus beau. Il s'est autosuffi. Voilà. Je ne servirai pas. Marie, elle porte la lumière. Et voilà. Et donc, du coup, mais dans l'humilité de la foi. Donc, ce n'est pas un archange, c'est une personne humaine maintenant qui est appelée à être porteuse de lumière. Donc, sous ça, c'est très fort, hein, c'est de rappeler les fins dernières, au fond, hein, la question de l'enfer, du salut, parce que l'Assomption rappelle ça, hein, ça c'est sûr. Le fait d'être temple, ça nous engage. Ça engage une certaine manière d'agir. On ne peut pas agir comme si on n'était pas habité. Et c'est le combat de notre vie, mais c'est le combat, c'est la tentation, c'est la... Voilà, tout un chacun, hein, sans pour autant renier Dieu, mais bon, parce que je pense que si nous sommes ici, c'est que, voilà, nous sommes plutôt favorables au club, si j'ose dire, donc sinon on ne serait pas ici. Mais on sent aussi qu'on a du combat. On sent aussi qu'il y a du travail, il y a quelque chose en nous qui s'oppose à Dieu. Et ça, c'est important de prendre conscience qu'il y a quelque chose en nous qui résiste à Dieu. Alors, ressentir, on peut le ressentir à des moments. Est-ce qu'on peut ressentir qu'on est aimé de Dieu? Oui, il y a des moments plus. Mais est-ce que c'est vraiment le fait de ressentir qui va être le déterminant? Il y a des moments de grâce, il y a des moments d'onction, des moments de plénitude, de paix intérieure, etc. Bien sûr, mais il y a tous les autres moments. Et qu'est-ce que je fais dans les autres moments? Je veux dire, et que ma foi ne soit pas simplement basée sur du ressenti, c'est important, mais sur une certitude, c'est ça, sur une certitude des paroles que me sont données par le Seigneur. Et voilà, je crois que c'est vrai. Quand nous avons communié ce matin au corps du Christ, nous avons dit Amen, ça veut dire je crois que c'est vrai. On n'a pas forcément ressenti beaucoup de choses. C'est ça qu'on nous demande. On nous demande de croire, d'adhérer. Dire, c'est vrai, Seigneur, je crois, tu es là, vraiment présent, réellement, sous les espèces du pain et du vin. Et vous voyez, vous vous rappelez, Mère Teresa, quand, dans ses écrits spirituels, qui disait, pendant 50 ans de vie religieuse, j'ai vécu un désert, j'ai rien ressenti. Et ça n'a pas empêché de faire l'œuvre qu'elle a faite et de devenir la sainte qu'on connaît. Donc, ce n'est pas le ressenti qui va être déterminant, même si ça peut aider. En tout cas, s'il nous met en chemin, ensuite, c'est un approfondissement d'une vraie adhésion de notre personne à la présence de Dieu en nous, quoi. C'est un acte de foi. C'est ce qu'on appelle l'acte de foi. Et Marie a vécu de foi toute sa vie. De ce point de vue-là, Marie, elle a vécu de foi. Bienheureuse celle qui a cru par la foi obéissante de la Vierge Marie, tu as fait d'elle, nous dit la préface, d'une manière unique, le temple de ta gloire. Elle a vécu de foi. Elle n'était pas le face-à-face, non ? Elle avait cet homme qui était son fils, voilà, mais je veux dire, c'est pas le témoignage oculaire, je veux dire, il y a des tas de gens qui ont vu Jésus de son vivant, mais qui n'ont pas cru. C'est pas le fait de voir Jésus, c'est la foi qui nous permet de percevoir en lui la divinité. Mais voir Jésus, on dit oui, mais si j'avais vécu du temps du Christ, ce serait plus facile. Et des gens qui ont vécu du temps du Christ et qui n'ont rien vu.
Alors, est-ce que c'est une grâce reçue ou est-ce que c'est un acte de volonté?
De quoi? La foi, vous voulez dire? La foi, c'est une vertu, donc c'est une grâce qui était reçue au baptême, et c'est une vertu, et la vertu, vous le savez, c'est disposition permanente acquise par la répétition des actes. Donc la foi est un choix. C'est une grâce qui donnée, mais si elle est à l'état embryonnaire, si elle, parce qu'on ne l'exerce pas par notre volonté, eh bien, elle porte pas des fruits. Donc c'est et de Dieu et de nous, comme toute la vie chrétienne, c'est et de Dieu et de nous. Les fameux actes de foi, vous connaissez, actes de foi, actes d'amour, actes d'espérance, voilà. On a à faire des actes de foi, volontairement, dans l'obscurité parfois, mais bon. Et en même temps, ça nous est donné justement au baptême. D'où l'importance aussi pour les enfants qui sont baptisés, etc., de les encourager à renouveler les actes de foi. À faire des actes de foi avec eux. D'actes de confiance. Actes de foi, c'est actes de confiance. Et ça, c'est pareil. Je parle d'autres questions, peut-être, vous avez pour... Oui.
Et alors, comment situer ça dans le plan de Dieu? Elles n'ont pas reçu la grâce de la foi explicite, mais elles vivent selon une conscience profonde qui les habite et qui est en vue du bien de leur prochain.
Oui, ben, c'est ce que dit Matthieu 25, hein, frère Gérard, c'est-à-dire c'est, on a fait le bien, il y a beaucoup de pratiquants non-croyants. Il y a beaucoup de pratiquants non-croyants. Des gens qui vivent l'évangile sans savoir. Et nous, comme chrétiens, qu'est-ce qu'on est chargé de leur dire? Ce que vous vivez, nous reconnaissons la trace de l'évangile. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie. Du coup, c'est un premier pas qui peut être, écoutez, qu'est-ce qui vous pousse dans votre cœur à vivre ça, à donner à ceux qui ont faim, à partager, etc., etc. Matthieu 25, c'est pas une simple générosité humaine, nous y voyons la trace du Saint-Esprit, comme croyants. Et on a à dire, on respecte et on valorise votre geste comme croyant, mais sachez que pour nous, il y a quelque chose de divin dans ce que vous vivez. Il y a beaucoup de pratiquants non-croyants. C'est la grande majorité. Et oui, et l'évangélisation consiste à dire, bah tiens, est-ce que vous êtes posé la question d'où vient ce désir que vous avez de partager? Et si un jour, ce désir de partager, il était rejeté, est-ce que vous continueriez à partager? C'est-à-dire, si un jour vous étiez confronté à la croix, vous continueriez encore? Est-ce que, si vous n'avez pas compris, pas entendu, c'est-à-dire que, est-ce que le fait de partager, si vous étiez rejeté dans votre désir de partager, est-ce que vous continueriez à partager? Ah ben oui, mais ça n'a rien de simple. La réponse est tout à fait, je me souviens moi-même, pendant des années, j'étais aumônier de prison en Amérique latine, et du coup, il y avait des laïcs qui étaient avec nous dans la pastorale des prisons, etc., et voilà, et l'accueil des prisonniers n'était pas du tout chaleureux. Mais ces gens-là venaient pour une autosatisfaction, pour qu'on leur dise que c'était des gens bien. Du coup, ils partaient, ils ne restaient pas. Il n'y a que ceux qui avaient une certaine contact avec le mystère de la croix qui restaient, qui acceptaient tout en donnant de se faire insulter. C'est ça la vie chrétienne. On dirait, comme disait Thérèse d'Avila, à Jésus, ça ne m'étonne pas que tu n'aies pas beaucoup d'amis. C'est pas mal celle-là. C'est ainsi que je traite mes amis, disait-il intérieurement à Thérèse d'Avila. Et elle, ça ne m'étonne pas que vous n'ayez pas beaucoup d'amis comme ça. Mais parce que c'est ça, c'est est-ce que je donne, etc. Mais est-ce que c'est parce que je veux être gentil? Est-ce que c'est une sorte d'autosatisfaction? Mais ce n'est pas la charité encore. La générosité n'est pas la charité. La charité, elle est aussi mue par la foi. Donc c'est là aussi, d'une manière ou d'une autre, c'est l'accueil de la croix dans notre vie. Est-ce que j'accepte, justement, alors que je suis dans une attitude de don, d'être rejeté dans le don de moi-même? Et je continue encore à donner. Voilà, donc, mais voilà, je trouve ça important de prendre conscience qu'il y a des gens qui ont des actes de générosité, font le bien, etc., mais qui ne sont pas mus par la foi. Eh bien, c'est la première étape. Et ensuite, on leur dit, mais est-ce que vous serez prêt à aller jusque-là? Une étape plus loin, un pas de plus, jusqu'à la croix, qui donne une autre fécondité à votre vie.